Bonjour à tous. Que le Seigneur soit béni pour ce moment dans sa présence. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dans sa présence, nous sommes fortifiés, nous sommes consolés. Et je lui suis infiniment reconnaissant pour cette occasion, cette opportunité, ce privilège d'apporter la parole. Et je remercie aussi notre pasteur. Pasteur Joseph Bondo, comme j'aime bien le dire, valablement représenté par Maman Gisèle. Que Dieu soit béni. Merci pour la confiance. Et aussi, merci à vous tous qui êtes là, non pas pour écouter un homme, mais pour écouter le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous en ce matin. Amen. Merci Jésus. Nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu, la première dans la deuxième épître à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Donc, nous lisons, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de du dernier écrit de Paul. Donc il est pratiquement au soir de sa vie, il sent son départ proche et il donne des paroles à Timothée. Nous lisons au nom du Seigneur. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il était en prison à Rome. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. La seconde lecture, nous la prendrons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 35. Il est écrit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et la dernière lecture, ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu 24, lorsqu'il parlait des signes de la fin. Je prends à partir du verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et le thème de notre exhortation de ce matin, c'est trois raisons de mener une vie chrétienne déterminée. Trois raisons seulement de mener une vie chrétienne déterminée. Trois raisons de marcher avec Dieu, avec persévérance, avec fermeté, avec détermination. Trois raisons de nous encourager à aller beaucoup plus loin, à ne pas nous arrêter. À ne pas nous arrêter, car beaucoup, trop de personnes ont bien commencé, mais finalement se sont arrêtées dans leur marche. Et nous voyons cela au travers de cette exhortation de l'apôtre à son fils dans la foi, Timothée, qui était un serviteur, déjà responsable de l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul l'exhorte en disant « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Il exhorte, ce sont ses dernières paroles qu'on aurait dit de notre temps, son testament. Il exhorte Timothée, et bien sûr, nous aussi, nous trouvons un grand réconfort dans ses paroles. Donc il est clair que de tous les âges, les souffrances, les pressions de la chair, la séduction et l'attrait du monde, l'attrait du péché, les puissances des ténèbres exercent une pression sur les enfants de Dieu. Et cette pression a tendance à saper la foi des enfants de Dieu. Vous savez, saper la foi, c'est comme un rocher où les vagues continuellement sont en train de se cogner. Au début, on a l'impression peut-être que les rochers résistent longtemps, mais petit à petit, il se crée des fissures, le rocher diminue en volume. Et c'est cette pression-là que l'ennemi exerce sur nous. C'est cette pression que le monde exerce sur nous. Nous ne le répéterons jamais assez. Le chrétien né de nouveau vit dans un monde hostile. C'est comme quelqu'un qui nage à contre-courant. C'est-à-dire, il doit faire encore plus d'efforts. Et j'aime beaucoup cette illustration que notre pasteur nous a partagée ici une fois. C'est un proverbe ouest-africain. Chaque jour, la gazelle ou l'antilope qui s'élève doit courir le plus rapidement possible pour ne pas se faire attraper, dévorer par un lion ou par un prédateur. Et d'autre part, chaque jour, le lion doit courir aussi rapidement que possible, sinon il mourra de faim. C'est notre condition ici sur la terre. Bien sûr, nous vivons cela avec repos, avec le cœur calme, avec sérénité et confiance dans le Seigneur. Mais c'est cela le tableau, c'est cela que les pressions exercent sur notre foi. Et combien des vaillants, des héros, des personnes qui ont été avant nous, avant vous, dans la foi, combien ont reculé, ont fait naufrage quant à la foi. Et même dans le passage que nous avons lu, si vous lisez tout le chapitre, on parle d'Hyménée et Philette qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. C'est-à-dire qu'ils avaient leur foi, qu'ils avaient commencé, ils ont avancé, mais à un certain moment, la foi a fait naufrage. Donc, dans le domaine de la foi, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Certaines personnes ont commencé à la quatrième vitesse, mais ont fait un naufrage avec le temps. Et d'autres parfois commencent très difficilement. Il faut tout le temps rappeler. Mais finalement, ils tiennent debout. Peu importe comment vous avez commencé, mais ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Et j'aimerais nous partager ces trois raisons qui nous aident à nous motiver intérieurement, à nous parler, à parler à notre âme, qui nous aident à être constants, être équilibrés dans notre foi. Premièrement, c'est la vision. La vision. Nous devons avoir une vision. Proverbe 29, verset 18, nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Et c'est mieux traduit dans beaucoup d'autres versions par « Quand il n'y a pas de vision. » Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Je n'irai pas trop loin dans les définitions de la vision. Simplement, la manière de penser, de voir, de comprendre. D'abord, la personne de Dieu, le salut qu'il nous offre, son œuvre à la croix et ses exigences. Lorsque nous avons compris ces choses, nous sommes sur le pas du bon chemin. Il est très important d'intérioriser ces choses et qu'ils trouvent de la racine dans nos cœurs. Amen. Il ne nous est pas autorisé d'être des chrétiens légers, sans une base. Nous finirons par être emportés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, nous sommes ici, le dimanche. Nous louons, nous levons nos mains. Demain, lundi, nous sommes ailleurs, quelque part. Après-demain, nous sommes encore plus loin, en train de courir ça et là. Ça, c'est la preuve d'un manque de vision. Un manque de vision. Quelqu'un qui n'a pas une vision par rapport à son Dieu, il est partout. Et comme on le dit, on est partout et nulle part. On fait les vagabondages spirituels. À gauche, à droite, partout. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc nous devons nous appliquer à rechercher Dieu de telle sorte que nous puissions le découvrir et que notre communion se raffermisse davantage. Nous devons nous exposer à la parole de Dieu afin de comprendre son amour, de l'intégrer. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Je souffre jusqu'à être lié, quelles que soient les réalités, les pressions, comme je le disais, quel que soit ce que nous vivons, souvenons-nous toujours de Jésus-Christ. Alléluia. Partout où nous pouvons nous retrouver, quelle que soit la difficulté, souvenons-nous de Jésus-Christ ressuscité des morts. Nous sommes appelés à grandir dans notre communion afin qu'il nous permette, que Dieu nous permette de le connaître davantage, de voir les choses, de les apprécier comme lui le ferait. Chaque fois que je peux rencontrer quelque chose de difficile, je me souviens de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus dans toutes choses, en toutes choses. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus-Christ, on est perdu, on perd la vision, on est nulle part. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus-Christ, c'est qu'on n'est même plus conscient de son œuvre à la croix. On est livré à nous-mêmes. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle, on a même perdu tous nos repères. On a perdu même ces repères de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus, on ne se souvient plus du Dieu d'amour. Car la relation que nous avons avec le Seigneur est premièrement basée sur l'amour. Nous n'avons rien mérité, mais lui a pris la forme humaine et est venu nous sauver. Ce sont des choses que nous ne devons jamais perdre de vue si nous voulons aller loin dans notre marche. Souvenons-nous de Jésus. Souvenons-nous de son amour. Lorsqu'on ne se souvient plus de l'amour de Jésus qui nous a pardonné, nous qui étions pécheurs, on devient impitoyable envers les autres. On devient égoïste. On devient égocentrique. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus, lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus, on perd les repères. Lorsqu'on ne se souvient plus du Dieu juste, on fonce dans l'injustice. Parce qu'on a simplement perdu toute notion de justice. Dieu n'est plus là. On est comme le juge inique, habitué à faire ce qui est injuste. On baigne dans l'injustice. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus-Christ, on ne se souvient plus de son omniprésence, du Dieu omniprésent, on pense que Dieu ne nous voit pas lorsque nous sommes seuls. Dieu ne voit pas ce que nous faisons en cachette. Pourquoi? Parce qu'on ne se souvient plus de Jésus. Il y a cette anecdote qui dit, éventuellement lorsque quelqu'un veut commettre un péché, commettre un forfait, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde autour de lui. Mais il n'a pas le réflexe de regarder au-dessus. N'est-ce pas? Parce qu'au-dessus, il y a Dieu. Il y a Dieu. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Il a dit, dans Marc 4, au verset 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus-Christ, on oublie même qu'il reviendra. On vit comme si tout se limitait ici-bas sur la terre. Comme si tout s'arrêtait ici-bas. On n'a plus l'espérance. On ne se souvient plus de Jésus-Christ dans ce qu'on fait. On a perdu la vision de son retour. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance ne va pas au-delà
du visible, du physique, du temporaire, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est l'occasion pour nous de revoir quelle vision nous avons par rapport au Seigneur. Sans cela, nous n'irons pas loin. Nous n'aurons pas des racines. Nous serons comme ces plantes à peine placées dans le sol. Un petit vent d'épreuve passe et on est ballotté. On est renversé par la moindre tentation. La vision est affectée de troubles. La conséquence, c'est que la foi, la marche chrétienne vacille, ballottée. Plus de persévérance, plus de fermeté, plus de détermination. Lorsqu'on ne se souvient plus de Jésus-Christ, on ne se souvient plus de sa sainteté, la crainte n'est plus dans les cœurs, la crainte disparaît. Or, l'un des principaux attributs au travers Dieu se révèle, au travers duquel Dieu se révèle à ses enfants, c'est la sainteté. Cela nous devait nous caractériser. Hébreux chapitre 12, 14 dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Bien-aimés, quelle est notre vision du Seigneur? C'est le premier élément. Quelle est notre vision du Seigneur? Deuxième raison qui devrait nous motiver à aller loin dans la foi, à être déterminés par rapport à notre marche, quoi qu'il en soit, c'est de savoir que nous sommes en mission. Alléluia. La mission. Christ nous a rachetés du péché, non pas pour nous laisser en tourisme sur ces terres, non pas pour nous envoyer contempler toutes les belles plages du monde et nous réjouir simplement. Non, nous sommes ici sur la terre, le Seigneur nous laisse pendant ce temps en mission. Alléluia. Il y a une mission à laquelle il nous a affectés, il nous a donnés. Nous sommes un peuple sauvé pour servir. Alléluia. Sauvé pour servir. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre au chapitre, dans sa première épître, au chapitre 2. S'adressant aux chrétiens, à partir du verset 9, il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes en mission. Nous, nos vies, ce que nous faisons doit annoncer les vertus. Nous sommes nous-mêmes un message. Alléluia. Le chrétien est un message. Avant de communiquer les messages du Seigneur, nous devons être des messages. Alléluia. Oh, j'ai déjà dit cela plusieurs fois. J'aime beaucoup cette personne qui disait... tes actes parlent plus fort que tes paroles. Alléluia. Nos actes parlent plus fort. Nous sommes ici sur la terre en mission. Et notre mission, nous la connaissons. Matthieu 28, 19 à 20. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes en mission. Et dans Jean 20, 21, il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Sommes-nous conscients que nous sommes en mission? Sommes-nous conscients? Quand je me retrouve au travail, je suis en mission pour le Seigneur. Quand je me retrouve au marché, dans mes activités, je suis en mission. Au supermarché, je suis en mission. Quand je suis à l'école ou à l'université, là où je suis en mission pour le Seigneur. Je dois annoncer les vertus de celui qui m'a arraché des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Partout où je me trouve, je suis en mission. Je suis en mission. L'Église a cette vocation d'être tournée vers le monde pour le salut des âmes. Bien sûr, comme nous le disons, tout le monde ne peut pas être ici sur la chair, mais nous avons la responsabilité de témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes. Alléluia. C'est bon de nous les rappeler, parce que très souvent nous oublions. Et je l'ai dit, les pressions externes, les réalités sociales, les difficultés, les maladies, toutes ces choses exercent une pression et sapent toutes ces réalités, ces vérités que nous savons. Et beaucoup lâchent finalement, lâchent. Mais nous devons nous fortifier intérieurement et prendre conscience. Et pour le cas, avoir conscience, avoir davantage conscience de notre mission nous conduit à plus de dévouement, plus de consécration et plus d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Quand on est conscient de la mission que nous avons, nous savons aimer le Seigneur. C'est normal parce que l'amour du Seigneur est lié à l'obéissance à sa parole. N'a-t-il pas dit cela dans Jean ? Celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui m'aime obéit. On n'aime pas le Seigneur simplement en parole comme ça. Non. Et il faut pratiquer sa parole. Et le salut des âmes est quelque chose qui est au cœur du Seigneur. La prise de conscience de n'avoir pas accompli la mission, totalement ou partiellement, devrait alimenter notre détermination. Je n'ai pas encore fini avec tout ce que le Seigneur attend de moi. Peut-être même que vous n'avez pas encore commencé. Ah, comme disait un bien-aimé, faisons attention de transformer les cimetières en des endroits où se cachent des richesses et des destinées non accomplies. Non accomplies. Pourquoi ? Parce qu'on a simplement pas compris ou pris conscience de ce que le Seigneur attendait de nous. Partout, nous sommes en mission pour le Seigneur, une grande armée. Dieu n'est pas effrayé par le nombre. Non, il est capable de nous donner tel que nous sommes là. Et dans tout, parmi tous les chrétiens, des milliers et des milliers, il est capable de nous donner une mission particulière. Alléluia. En sorte que personne ne puisse dire, ça concerne les pasteurs, ça concerne les serviteurs. Non. Alléluia. Autant nous avons des visages différents, autant Dieu a pour nous un plan différent. Il a un programme différent. Il a une mission différente qui concourt à la grande mission du salut des âmes. Alléluia. Et ce qu'il attend de nous, comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt dans 1 Pierre 4:10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mettons au service des autres les dons que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné son esprit va exprimer le don qui est que Dieu nous a conféré, nous a affecté, et nous pourrons le servir avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. C'est très important. La mission, comme ce chapitre le dit, et emploie les termes des images au verset dans 2 Timothée 2, on parle du soldat qui ne s'occupe pas des affaires de la vie, mais qui connaît sa mission. Il connaît sa mission. Il connaît les réalités de la guerre. Voilà la condition du chrétien. On parle de l'athlète qui s'entraîne, s'efforçant de remporter le prix. Voilà la condition du chrétien. Le prix, nous l'aurons. Nous le verrons tout à l'heure. L'athlète qui s'efforce de remporter les prix et qui combat selon les règles. On parle aussi du laboureur qui doit s'aimer avant de récolter. Ça, c'est pour nous encourager à savoir que nous sommes en mission. Nous sommes des serviteurs et des servantes en mission. Alléluia. Ô gloire à Jésus. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les réalités, quel que soit le milieu dans lequel nous nous retrouvons, milieu social ou professionnel, en famille, nous ne devons pas oublier que nous sommes en mission. Et notre mission, c'est le salut des âmes. Et bien sûr, la vision et la mission se tiennent. Elles vont ensemble. Vision et mission vont ensemble. Lorsque nous avons la bonne vision de Dieu, nous voyons le monde comme Dieu le voit. Comment est-ce que Dieu voit le monde? Dieu voit le monde et les âmes comme des âmes en perdition qui ont besoin du salut. Il ne voit pas le monde comme un ensemble de richesses à s'accaparer. C'est important pour les besoins des nations, pour les besoins des hommes. Mais Dieu n'a pas cette vision. Dieu voit l'homme qui doit être sauvé. Et nous, lorsque nous persévérons dans notre communion avec le Seigneur, nous voyons dans les autres des âmes qui ont besoin du salut, et non des personnes à exploiter. Alléluia. Non pas des personnes à exploiter, mais des âmes à sauver. Nous sommes en mission. Témoins au bureau, témoins au marché, témoins dans l'auditoire, témoins en famille, témoins dans les rues, témoins à l'hôpital, témoins partout. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous attend dans ce domaine-là, pour être des témoins, pour partager notre foi. Si nous avons été sauvés, nous devons partager notre foi. Et le troisième élément qui doit motiver notre détermination, que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est la rémunération. Vision, mission, rémunération. Trois choses qui doivent motiver notre foi, nous pousser à être déterminés et aller de l'avant. La rémunération. Nous l'avons lu. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Les Juifs d'autrefois, les chrétiens d'autrefois, étaient tentés d'abandonner justement la marche avec le Seigneur, à cause des persécutions. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur a donné toutes ces paroles. Dit, n'abandonnez pas, tenez bon, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Alléluia. Par la persévérance, nous sauvons nos âmes. Nous l'avons lu. C'est ce que Matthieu dit, Matthieu 24, la reprise dans Luc 21 explique bien cela. Par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi je disais, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais il ne faut pas attendre la fin pour courir, pour avancer. Il faut être déterminé dans sa marche chaque jour. C'est un effort de chaque jour afin que les racines soient solidement plantées. Oui, il y a rémunération. Il y a récompense. C'est le même terme. Il y a récompense. Et en matière de rémunération, dans notre marche chrétienne, nous devons savoir, premièrement, c'est Dieu lui-même qui est notre grande récompense. Alléluia. Genèse 15, 1. Dans Genèse 14, Abraham a vécu des combats, il a vaincu des rois, une coalition des rois, avec une petite poignée, 300 personnes. Et il s'est retrouvé, après cette victoire, ça produit en effet une sorte de peur. Il se disait, mais ces rois-là, je les ai vaincus, mais s'ils rentrent et appellent toute la grande coalition, qu'est-ce que je vais devenir? Dans toutes ces questions-là, le Dieu qui lui avait fait la promesse va lui parler, va lui dire, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier. Dans la version Louis II, on dit, et ta récompense sera très grande. Mais la meilleure version dit, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. C'est Dieu lui-même qui est notre récompense. Alléluia. C'est Dieu qui est notre récompense. Lorsque nous persévérons, nous arrivons à le connaître. Nous arrivons à découvrir qui il est. Nous arrivons à découvrir sa volonté. Nous entrons dans sa présence. Nous communions avec lui chaque jour. Et il se révèle. Notre Dieu est un Dieu qui se laisse découvrir. Nous ne les répéterons jamais assez. Alléluia. Sa présence n'a pas de prix. Alléluia. Sa joie n'a pas de prix. Sa paix n'a pas de prix. Il est notre protection. Il reste lui-même à nos côtés pour nous soutenir. Alléluia. Et dans Hébreux 13, au verset 5, il dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. » Car lui seul a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai. Alléluia. Lorsque nous avons le Seigneur, nous avons tout. Alléluia. Il est notre très grande récompense. Comme le dit la petite histoire, prenons le bijoutier. Nous saurons que tous les bijoux sont à nous. Alléluia. Une autre récompense que le Seigneur nous promet dans Marc, chapitre 10, au verset 29, l'apôtre Pierre va demander à Jésus, au verset 28 plutôt, il demande à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Mais nous t'avons suivi. À quoi pouvons-nous nous attendre? À quoi pouvons-nous nous attendre? Nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Écoutez ce que Jésus lui dit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Dieu promet à Pierre des frères, des sœurs, des maisons, des terres, des pères, des mères. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le Seigneur voulait parler de l'Église. Alléluia. Lorsque nous avons tout quitté, nous venons à l'Église. À l'Église, nous avons des milliers de frères et de sœurs. Nous entrons dans la grande famille céleste. Nous avons des pères et des mères. Nous avons des frères et des sœurs de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Nous avons des terres et des maisons où nous pouvons être accueillis, où nous sommes reçus. C'est ce que le Seigneur voulait parler. L'Église, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Alors, ne négligez pas, ne méprisez pas l'Église. Ne soyez pas de ces chrétiens qui pensent que prier à la maison suffit. Non, l'Église, c'est beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est l'héritage que le Seigneur nous donne en récompense à notre salut. Nous faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu. Une autre récompense, une autre rémunération, c'est bien sûr, comme nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 10, au verset 35, afin que, après la persévérance, nous obtenions la persévérance. Et dans la foi nous permet d'obtenir l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Hébreux 11, verset 6, nous dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, ou mieux, croie que Dieu est, et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est, et il récompense ceux qui le cherchent. Il y a une rémunération, et cela doit nous motiver. Cela doit nous motiver. Il y a une rémunération. Et dans la banque céleste, les écluses des cieux s'ouvrent devant une seule monnaie. La foi. Alléluia. La foi est cette seule monnaie qui nous permet d'ouvrir les écluses des cieux, qui nous permet d'obtenir l'accomplissement des promesses de Dieu. Des promesses en récompense à notre foi. Oui, les promesses pour le siècle présent, ici sur la terre, nous avons plusieurs promesses. Et cela doit nous pousser à aller chercher. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à méditer sa parole. Pour découvrir les promesses que Dieu a pour nous. Nous devons nous exposer à sa parole. Nous devons laisser sa parole nous travailler. Et le Saint-Esprit nous guider. Cela nous permettra d'avoir des racines. Des racines qui vont nous pousser à être déterminés dans notre marche avec le Seigneur. Oui, il y a des récompenses. Et pour le siècle à venir, Jésus l'a dit, et pour le siècle à venir, la vie éternelle. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Alléluia. Nous régnerons avec lui. Le règne nous attend. Nous l'avons lu, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à régner. C'est vrai que nous ne régnons pas totalement dans le physique. Sur le spirituel, nous avons autorité selon que le Seigneur nous l'a donné. Mais sur le monde physique, nous ne régnons pas encore. Jésus lui-même a dit, ici sur la terre, « Notre royaume, mon royaume, n'est pas de ce monde. » Alors, vous qui pensez que nous sommes appelés à régner dans ce monde, nous faisons fausse route. Nous régnons dans le spirituel. Alléluia. Mais nous ne régnons pas physiquement. Plaise au Seigneur de nous donner des positions sur le plan social. Mais utilisons-les pour sa gloire. Nous régnons. Nous ne régnons pas physiquement, comme je l'ai dit. Nous sommes comme des rois sans royaume. C'est comme David. Lorsque David a reçu l'onction royale de la part par le prophète Samuel, il avait reçu cette onction. Il savait qu'il deviendrait roi. Mais il y avait Saül qui le persécutait. Il a dû attendre des années avant de régner à Jérusalem. Il a dû attendre. Nous aussi, nous attendons. Nous attendons comme David. Jésus-Christ a refusé la royauté universelle que le diable lui a proposée lors de l'épisode de la tentation. Nous sommes dans Luc 4. Matthieu 4, il a refusé aussi chaque fois que les hommes voulaient le faire roi après des miracles qu'il accomplissait. Il se cachait parce que les gens voulaient le faire roi pendant son ministère terrestre. Mais non, il ne voulait pas cette royauté-là. Il voulait régner sur un peuple au cœur renouvelé et débarrassé de ses péchés. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Régner sur un peuple renouvelé et débarrassé de ses péchés. C'est pourquoi il devait mourir à la croix et sauver tous ceux qui croiraient en lui. Il voulait que son règne soit une bénédiction qui dépasse les limites d'Israël. Il voulait que son règne soit une bénédiction qui dépasse les générations dans lesquelles il a vécu. Il pensait aux extrémités de la terre. Il pensait à nous en l'an 2022. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il attend. Il attend son retour. Alléluia. Le règne, c'est une récompense. Nous régnerons avec lui. Mais maintenant, nous attendons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Trois choses pour nous aider à être déterminés plus que jamais pendant ces temps difficiles. Je ne sais pas, il nous reste combien d'années jusqu'à son retour. Soyons déterminés plus que jamais. Trois choses. Vision. Quelle est notre manière de voir du Seigneur? Comment voyons-nous ses intérêts, ses exigences? Quelle est notre vision de Dieu? Quelle est notre vision de son salut? L'avons-nous oublié pour que l'apôtre Paul nous le rappelle encore aujourd'hui? Souvenons-nous de Jésus-Christ. Deuxième chose, la mission. Nous sommes en mission. Nous ne sommes pas en villégiature touristique. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes en mission dans tout ce que nous faisons. Nous devons avoir cette conscience que nous sommes en mission. Cela va alimenter notre amour pour le Seigneur, notre désir d'aller plus loin. Cela va même nous aider à rechercher sa présence, à la désirer tellement que nous pouvons être réguliers dans sa maison. À chaque fois qu'il y a un culte, nous n'allons pas nous faire prier pour être là. Même en semaine, parce que nous le désirons, nous le cherchons, nous avons conscience que cette mission-là, nous devons la réussir. Alléluia. Et troisième chose, rémunération. Il y a une récompense qui nous attend. Dieu lui-même est notre récompense. Alléluia. Dieu lui-même est notre récompense. L'Église, nos frères et sœurs rachetés, nous sommes la récompense les uns des autres. Que Dieu nous donne des frères et des sœurs en centaines, au centuple, partout où nous pouvons nous retrouver. Notre récompense, ce sont les promesses que Dieu nous donne ici sur la terre, avec comme monnaie pour acquérir ces promesses, pour voir Dieu se manifester, la foi. Et la récompense des récompenses, le règne. Le règne. Vision, mission, rémunération. Trois choses pour nous aider à être déterminés. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous inclinons dans la prière. Nous avons parlé de persévérance dans la marche avec le Seigneur, de détermination. Peut-être que vous êtes là ce matin, vous réalisez que vous n'avez même jamais commencé à marcher. Vous n'avez jamais commencé à marcher. Et vous ne savez même pas vous situer par rapport à une quelconque détermination. C'est l'occasion pour vous. Le Seigneur vous a parlé. Ce sont ceux qui persévéreront qui seront sauvés. Et nous voulons vous inviter à rejoindre ce train qui a déjà marché. Vous êtes encore loin du Seigneur, encore embourbé dans le péché, vautré encore dans le péché. Le péché est lourd et vous empêche. Vous traînez encore toutes sortes de casseroles, comme on dit. Et vous n'arrivez pas à marcher. Beaucoup de choses vous retiennent en arrière. Nous voulons vous inviter à faire la paix avec le Seigneur. Alors que les yeux sont fermés, les têtes baissées, nous vous invitons à vous manifester. Vous pouvez lever simplement votre main. Nous allons prier avec vous. Vous voulez faire la paix avec le Seigneur. Partout où vous vous retrouvez, dans les hangars, au chapiteau, à l'école maternelle, sous les diverses tentes, au parking, levez votre main. Nous ne vous voyons pas, mais le Seigneur vous voit. Il voit votre désir de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Merci pour ces quelques mains. Ô Jésus, vous allez faire cette prière après nous. Dire Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. J'ai longtemps erré loin de toi. Pardonne mes péchés. Pardonne ma vie de désordre. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je t'ouvre mon cœur. Viens, entre dans ma vie. Sauve-moi. Je ne veux pas rater le train. Je ne veux pas avoir parcouru en vain cette existence sur la terre. Viens me délivrer. Fais de moi ton enfant. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci de me donner la vie éternelle par ton Esprit. Oui, si vous avez fait cette prière, vous pouvez baisser les bras. Le Seigneur entre dans vos vies. Et nous allons prier, nous tous, nous allons nous lever et demander au Seigneur, Seigneur, viens réajuster notre vision. Viens nous aider à voir comme toi tu vois. Viens nous aider à bien comprendre tes exigences et tes intérêts. Et nous allons prier par rapport à la mission. Prendre conscience de la mission nous aide à aimer le Seigneur et nous aide à nous donner davantage, à nous consacrer et aussi à savoir qu'il y a une rémunération qui nous attend. Nous n'aurons pas parcouru en vain. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia.